France Info.
Infomédia, Céline Baïdarcourt. D'abord, en bref, on commence par la révélation de deux affaires de sexisme dans les médias.
Oui, Libération nous apprend que trois journalistes du Huffington Post en France ont été licenciés en décembre après la découverte d'une messagerie interne à l'entreprise dans laquelle les hommes multipliaient les contenus graveleux, racistes et homophobes. Et plus ancien, ça remonte à l'été 2017, deux journalistes du site Vice virés pour des insultes sexistes dans un groupe de discussion numérique sur leur lieu de travail.
Autre affaire, Céline, qui éclabousse plusieurs rédactions, c'est celle dite de la Ligue du LOL, un cyberharcèlement en meute exhumé des années après, puisque l'affaire est sortie en fin de semaine dernière seulement. Et là, des têtes commencent à tomber dans plusieurs médias.
Au moins 5 journalistes sont écartés, notamment Vincent Glade et Alexandre Hervaud de Libération, mis à pied. Même chose pour David Doucet aux Inroc, avec une procédure de licenciement enclenchée pour faute grave. Leur point commun, c'est de s'être senti invincible et tout puissant. Entre 2009 et 2013, leur groupe Facebook, appelé donc la Ligue du LOL, a semé la terreur sur Twitter. Ils étaient une trentaine de jeunes journalistes, publicitaires ou communicants, très populaire sur le réseau social, à vouloir s'amuser aux dépens des autres et surtout des femmes. Hein, sexisme, homophobie, grossophobie. Les harceleurs ont exploité tous les filons pour asseoir leur domination. Ils ont brisé des carrières et détruit psychologiquement leurs victimes.
Et on réécoutera tout à l'heure l'une de leurs victimes présumées qui a accepté de témoigner ce matin au micro de France Info. Notre invité à présent, c'est le réalisateur d'un documentaire exceptionnel sur la France de l'entre-deux-guerres, documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 2.
Bonjour Romain Icard.
Bonjour.
Ah, c'est effectivement un film extraordinaire, hein, qui raconte l'histoire de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos parents aussi peut-être. Vous relatez deux décennies de l'histoire de France, de 1919 à 1939. D'abord, j'étais très surprise de voir qu'il y avait autant d'images, autant d'archives de cette époque.
Il y en a encore beaucoup plus, parce qu'on a fait un tri. Oui. Non, c'est le début de l'actualité au cinéma, donc c'est le début des caméras pour les journalistes, et donc il y a beaucoup d'archives. J'avais 400 heures de rush, je crois, pour faire ce film, donc il y avait énormément de matière.
Vous les avez trouvées où, ces images?
C'est le travail de documentalistes qui font un boulot extraordinaire. Il y a des fonds comme l'INA ou Pathé qu'on connaît, et puis il y a des fonds régionaux. C'est-à-dire que les familles, les greniers recèlent des trésors que les familles offrent aujourd'hui à des fonds régionaux et qui les font vivre et qui nous permettent d'y accéder.
Archives souvent inédites que vous avez colorisées.
Alors, c'est pas moi, mais effectivement.
Avec votre équipe.
Voilà, parce que c'est un travail collectif. Mais oui, il y a une équipe formidable. Samuel François Sténinger, que je cite, parce que c'est un artiste qui colorise ses images. Ça lui a pris des mois et il a fait un travail que je trouve remarquable.
Parce on a vraiment l'impression que c'est très proche.
Sans couleur, on peut pas faire un prime aujourd'hui. Un documentaire en noir et blanc, ça passe plus.
Sans couleur, on peut faire des primes. Il y a eu Les Gueules Noires, un remarquable film qui était couleur et noir et blanc il y a peu de temps sur France 2. Mais il faut dire que la couleur ramène une proximité folle à ces images. C'était hier quand on les regarde en couleur, c'était avant-hier quand on les regarde en noir et blanc.
Alors c'est en deux parties, parce qu'il y a vraiment deux époques hein, dans l'entre-deux-guerres.
Clairement.
En 1919, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, tout est à reconstruire, beaucoup de Français ont faim. Mais il y a enfin l'espoir, l'euphorie d'une paix retrouvée, ça c'est la première partie.
C'est la première partie, c'est vraiment, voilà, exactement, c'est l'espoir, c'est ce collectif qui croit à quelque chose de commun et qui va s'employer à le faire naître de ruines.
La modernité s'installe, la France s'urbanise.
La France s'urbanise beaucoup, les banlieues poussent comme des champignons, ces bâtiments rouges qu'on voit au sortir de Paris et d'autres villes de France qui vont devenir nos HLM et qui naissent à ce moment-là.
Oui. Et les femmes commencent à s'émanciper, bon, très légèrement, elles peuvent faire des études supérieures et elles réclament le droit de vote. Il y a une autre chose qui change, c'est leur look qu'on écoute.
Fini les silhouettes corsetées et étouffantes. Les femmes portent désormais des jupes courtes et dénudent leurs épaules. Elle s'assume androgyne, et pourquoi pas aguicheuse. La garçonne, c'est une tenue, et c'est aussi une façon de vivre, une façon d'être libre. Fumer aux terrasses des cafés, se promener entre amis, et surtout s'amuser. Des gestes révolutionnaires pour l'époque.
Oui, Romain Icard, cette mode de la garçonne, c'est plus qu'une mode vestimentaire.
C'est une revendication, c'est un
acte politique.
C'est un acte politique, c'est un appel d'air. Se couper les cheveux, c'est ce que disent des femmes, c'est autant un geste esthétique qu'un acte politique. C'est dire au patriarcat, si vous ne voulez pas de nous comme des femmes, eh bien on ressemblera à des hommes pour être l'égal de vous.
Et là, c'est ce qu'on a appelé les années folles?
C'est le début des années folles.
Avec Joséphine Baker, avec
la folie dans Paris. C'est réservé à une certaine élite, mais il y a une capillarité qui fait que la France, d'un seul coup, est embarquée dans quelque chose de plus festif, de plus joyeux.
On s'amuse comment à cette époque?
On s'amuse dans les balles, on s'amuse avec du jazz. Le jazz, cette musique afro-américaine qui débarque en France avec la guerre, parce que la guerre amène aussi de la culture, reste en France et devient presque française autant qu'américaine. Et il n'y a pas un bal, où qu'on soit en France, en province ou en ville, sans son orchestre de jazz. On s'amuse comme ça, en dansant.
Et puis, alors c'est la deuxième partie du film, hein, octobre 1929, le jeudi noir, le krach boursier, les Français déchantent. Comment ça se traduit dans leur quotidien ?
Ça se traduit pas tout de suite en France, parce qu'on a une économie qui n'est pas celle des États-Unis ou de l'Angleterre ou même de l'Allemagne. Ça va se traduire quelques temps plus tard par une chute des revenus, tout simplement. Ce que je raconte, les pêcheurs n'ont plus de marché à l'étranger pour vendre leurs poissons. Donc c'est une chute de leurs revenus et c'est une crispation de la société, comme à chaque fois qu'on a du mal à remplir son frigo, même si à l'époque on n'avait pas de frigo. Mais voilà, c'est une crispation de la société qui va amener à des tensions sociales et économiques.
Et on assiste à une montée du nationalisme en France, hein, tandis qu'en Allemagne, les nazis arrivent au pouvoir. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait. C'est en 1937, Paris accueille l'exposition universelle avec un aigle nazi qui surplombe la capitale.
Les Français déambulent au milieu des dernières inventions en feignant de ne pas voir les croix gammées dans ce congrès supposé de la paix et du progrès. À ce concours universel d'hypocrisie, les Allemands excellent, eux qui, par le biais de leur ambassadeur, promettent un avenir radieux alors qu'ils se préparent à la guerre.
La participation allemande contribue entre nos deux peuples.
Et les thèses nazies trouvent un écho en France, hein.
Ah ben le fascisme a malheureusement le vent en poupe dans les années 30 en France comme ailleurs, même si dans les urnes ça ne se traduit pas par un vote massif, mais dans la rue par contre, oui, effectivement, c'est pas du nazisme, mais c'est du fascisme.
On a parlé évidemment de l'importance de ces images, hein, c'est tout le sel de votre documentaire, mais la voix est importante, qui commente ?
C'est Denis Podalydès avec cette voix qui lui est si propre et un talent fou, et qui fait effectivement une... Voilà, il y a rien de sentencieux, il y a rien de professoral. C'est très proche de nous et ça, je pense, participe à cet effet.
Merci à vous, Romain Icard. La France de l'entre-deux-guerres, à voir donc ce soir 21h sur France 2, les deux épisodes à la suite.
Les deux,
c'est bien ça. Merci beaucoup. 9h28 sur France Info.